Jeff Caron.
Salut Jeff, comment ça va?
Ça va bien toi?
Très bien, mais dans les circonstances, j'ai de la misère à lire. Je me sens pas bien quand j'ai de la misère à décoder. On essaie toujours de décoder nos politiciens, évidemment. C'est des gens de ligue mineure, là. Sont faciles à décoder, puis on est capable de voir quand est-ce qu'ils mentent, c'est-à-dire très souvent. Mais dans le cas de Trump, là, tu sais...
We're gonna reduce them to Stone Age! The Stone Age!
Écoute...
Là, son dernier tweet, le lilé, parce que...
Il y a 45 minutes de ça, il dit...
C'est de la sauce.
Il dit, ce soir, une civilisation tout entière va mourir... Elle ne renaîtra jamais de ses cendres. Je ne veux pas que ça arrive, mais ça va probablement arriver. Écoute, c'est...
Mais à la fin, il dit « God bless the great people of Iran ». Ouais, mais...
Ah oui.
Parce qu'au début, tu dis que tu vas les anéantir au complet. C'est une perte de contrôle totale. Puis on dresse un parallèle dans certaines revues politiques entre lui et Nixon, où Nixon... À la fin, je vais faire le malade mental, comme ça, ils vont avoir encore plus peur, le Viet Cong.
Ouais. Ben écoute...
On t'écoute.
Moi, les gens me disent, est-ce qu'il faut s'inquiéter suite au discours de Trump d'hier, puis sa promesse là, d'hier, puis de 45 minutes, là, de ramener l'Iran à l'âge de pierre? Moi, je pense qu'il est vraiment sérieux, puis les raisons pour lesquelles il est sérieux, c'est que il est en train, lentement mais sûrement, de s'enliser dans un conflit où l'armée américaine... paraît pas bien du tout, puis où il arrivera pas vraisemblablement à atteindre ses objectifs. Souvenez-vous du discours de mercredi dernier, Trump avait dit que l'Iran avait plus aucun système antimissile fonctionnel. Or, soit il racontait n'importe quoi, ou bien il mentait parce que l'Iran a fait la preuve qu'ils avaient encore les moyens d'abattre des avions américains.
Oui.
L'affaire du F-15 avait... l'a bien montré, ainsi qu'il y a deux hélicoptères qui ont aussi été détruits dans l'opération de sauvetage, en plus d'un avion A-10. Donc, tu sais, oui, ils ont réussi à sauver le pilote puis le copilote, mais je pense pas qu'on peut réellement parler ici d'une victoire, mais plutôt d'une catastrophe évitée de justesse qui aura coûté des centaines de millions de dollars en équipement perdu, mais en plus de montrer la vulnérabilité de l'armée de l'air américaine contre des gens que Trump décrit essentiellement comme des cutéreux médiévaux. Puis les pertes matérielles subies pendant cette opération de sauvetage-là s'ajoutent à celles qui ont déjà été subies. Hein. On rappellera que depuis le début de l'opération, à la fin février, un avion ravitailleur qui a été détruit, il y a un F-35 de 100 millions de dollars qui a échappé de... à un tir de missile antiaérien. Il y a un hélicoptère Chinook qui a été détruit. Puis on doit parler d'au moins un, sinon de deux avions AWACS qui ont été détruits sur une base en Arabie Saoudite. Puis ça, c'est humiliant. Puis contrairement à ce que Trump disait mercredi dernier, puis que aussi que les États-Unis avaient remporté la plus grande victoire militaire de tous les temps, moi, je pense qu'on est loin d'une victoire. Et d'une part, je pense qu'on ne congédie pas un des chefs de l'état-major des armées, quand on a remporté une pareille victoire, on leur donne plutôt des médailles puis on leur organise des parades sur Broadway. Ça sent la dissension au sein du Pentagone. Puis d'autre part, j'ai déjà dit, le régime des Mollahs, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, la question n'est pas là. Mais le régime est encore en place. Ils ont probablement enfoui aux quatre coins du pays leur uranium, s'ils en ont. Ils montrent aussi également leur capacité à résister puis à provoquer à tout moment une grave crise énergétique mondiale. Donc, tu sais, ils ont énormément de cartes en main. Puis le truc, c'est que Trump, vous le connaissez comme moi, c'est pas le genre de gars à accepter une défaite. Mais d'autre part, il est pas con au point de refaire un Vietnam ou un Irak 2.0. Donc, il doit tout faire, puis il va tout faire en son pouvoir pour faire plier les mollahs. D'autant plus, ça c'est important de rappeler, il commence à manquer de temps. Parce que lui qui avait initialement parlé d'une opération d'au maximum 6 semaines, il commence dangereusement à approcher la limite des 60 jours qui lui permettent...
Pour aller au Congrès.
Exactement, de déployer des troupes à l'étranger sans l'approbation du Congrès. Donc, même si Trump a jugé cette limite qui était inconstitutionnelle, il y a quand même fort à parier qu'il y a beaucoup de membres du Congrès, tant démocrates que républicains, qui exigeraient qu'un vote ait lieu sur la question du financement puis de la prolongation de l'opération militaire. Or, compte tenu du faible taux d'approbation de cette guerre dans l'opinion publique américaine puis que les midterms approchent rapidement, on peut facilement s'imaginer qu'il pourrait y avoir une majorité de représentants qui s'opposeraient à Trump. Puis si ça devait arriver, il ferait alors face à une crise politique là, de grande envergure. Donc, le temps presse pour lui. Puis comment est-ce qu'il compte mettre fin à ce conflit-là avant d'atteindre la date limite des 60 jours sans avoir à envoyer des boots on the ground puis à s'enliser dans le conflit? Bien, c'est comme il l'a promis, c'est de ramener l'Iran à l'âge de pierre. Puis il risque de tout miser sur cette attaque dévastatrice qu'il promet dans l'espoir que ça va forcer Téhéran à négocier. Puis là où j'ai une crainte, c'est la méthode qu'il va utiliser. Parce que, tu sais, dans l'histoire, contre quel autre pays les États-Unis se sont retrouvés en guerre contre un pays qui refusait obstinément d'abdiquer? C'était le Japon en 1945.
Puis ça a été ça quoi, a la pris la bombe nucléaire.
C'est ça, c'était quoi, la seule façon de convaincre les Japonais que la guerre était perdue? C'était en utilisant, non pas une seule fois, mais à deux reprises, l'arme atomique. Bon, évidemment, je suis pas en train de dire que Trump va nuquer l'Iran ce soir, mais s'il veut impressionner l'Iran au point de les forcer à abdiquer, il va devoir utiliser des moyens conventionnels
comme
qui vont être tout aussi destructeurs qu'une arme de destruction massive.
Tu t'attends à quoi de manière réaliste, là? De manière réaliste, qu'est-ce qui pourrait survenir?
Écoute, ça va être des frappes, des missiles Tomahawk, ça va être...
On a eu un masse de ça?
Oui, ben...
Parce que là, les messages en lettres majuscules, là, c'est la fin! Il a mis la barre trop haute.
Ben, c'est ça. Mais le truc, c'est malheureusement, je pense qu'il est sérieux, parce qu'il n'a pas le choix de mettre un terme à ce conflit-là au plus sacrant contre un ennemi, comme je disais, qui est très résilient, qui a la capacité de bloquer le détroit d'Hormuz puis de créer une crise énergétique mondiale. T'sais, écoute, il n'a pas le choix d'y aller fort. Fait que c'est pour ça que je dis, je pense qu'il est sérieux, mais pas au point d'utiliser l'arme atomique, mais tous les moyens à sa disposition pour vraiment détruire toutes les infrastructures stratégiques.
Là, il y a des boucliers humains qui vont s'installer. Évidemment, l'Iran est complètement... Le régime est hors contrôle avec des enfants puis des jeunes qui vont entourer les centrales thermiques, etc. Là, évidemment, vous avez affaire à un régime qui est dans ses derniers retranchements, peut-être.
Mais c'est qui va en payer le prix? Hein? C'est les civils qui, selon Trump, sont prêts à accepter la destruction de leur pays pour pouvoir être libres. Mais tu sais, imaginez le dilemme dans lequel ces gens-là se trouvent. T'sais, mourir aux mains des mollahs ou à cause d'une bombe lancée d'un B-52, c'est pas un choix. Là. Puis j'évoque même pas ici le fait que si Trump faisait ça, ça serait un crime de guerre. Donc,
Est-ce que tu achètes ça, d'ailleurs? C'est ça que le boss de bon, je sais, les Nations Unies, là, c'est pas nécessairement en vogue les temps-ci, mais quand même. Crime de guerre, point d'interrogation, t'en dis quoi?
Ben écoute, les règles de la guerre, les conventions de Genève, toutes les règles internationales disent que toute attaque doit être ciblée et s'attaquer uniquement à des cibles militaires. Et les belligérants doivent faire tout en leur pouvoir pour minimiser autant que possible les dommages collatéraux sur les civils. Donc, ça veut dire que frapper délibérément des villes tout entières de manière indiscriminée, c'est un crime de guerre.
Maintenant, comment se porte l'OTAN ce matin?
Ben, écoute...
Est-ce que l'OTAN, il y a encore un pouls?
Le pouls de l'OTAN, ça dépend des États-Unis. Si les États-Unis décident de détruire l'OTAN va arrêter d'exister. Puis si les États-Unis décident là, de maintenir l'organisation sur le respirateur...
On peut pas dire que les Européens aident beaucoup dans ce dossier-là. Là.
Ouais, mais tu sais, d'une certaine façon, on peut les comprendre. Ils n'ont pas été consultés sur l'opération. Et puis, on ne peut pas dire non plus que Trump traite ses partenaires de l'OTAN depuis un an avec énormément de respect non plus. Hein. Puis même en fin de semaine, ce qu'il a rajouté sur Keir Starmer puis surtout Emmanuel Macron... C'est pas un appel à la collaboration pour les partenaires de l'OTAN. Mais par contre, ce que l'Europe pourrait faire, puis là, écoute, ça pourrait être extrêmement dommageable pour les États-Unis. L'Iran a offert aux Européens de leur vendre du pétrole. Donc ça voudrait dire de laisser passer leur pétrolier sans obstruction dans le détroit d'Hormuz. Si les Européens acceptaient de payer les Iraniens non plus en dollars américains, mais en euros ou en yuan chinois. Ben, t'sais, vous savez comme moi, hein, l'économie américaine fonctionne malgré une dette immense à cause du pétrodollar. Oui. Parce que les échanges des produits pétroliers se font en dollars américains, ce qui crée une demande artificielle pour le billet vert. Puis ça a toujours été la grande crainte des États-Unis, que les pays commencent à acheter et à vendre du pétrole avec d'autres devises. Donc, en ce moment, l'Europe est dans marde depuis qu'elle n'achète plus de pétrole à la Russie. Puis les prix ont explosé en Europe depuis 4 ans, puis encore plus depuis le mois dernier. Et qu'est-ce que les Européens doivent aux États-Unis, tu sais, qui leur balancent des tarifs sur la gueule depuis un an, puis dont leurs chefs politiques se font insulter sans arrêt par Trump? Fait qu'à quelque part, si les Européens voulaient vraiment faire mal aux États-Unis, le prix de l'unilatéralisme américain, ça pourrait ultimement amener à leur marginalisation si les Européens décidaient d'accepter la deal iranienne. Donc, peut-être que le manque de volonté de la part des partenaires européens de collaborer avec les États-Unis, c'est pas juste parce qu'ils sont pas prêts ou
pas juste l'orgueil
de Trump. Peut-être qu'ils sont en train de calculer le coût à venir, puis ils se disent, est-ce qu'on peut encore réellement se fier aux États-Unis comme partenaire fiable? Puis là, on a une crise énergétique majeure. Nos sièges sont en jeu parce que les populations locales vont pas accepter un prix à 2,50 € pour le litre d'essence. Peut-être que les Européens vont venir à la conclusion, on va peut-être pactiser avec le diable, faire une deal avec les Iraniens pour avoir un approvisionnement en pétrole et en gaz, en sachant très bien que c'est peut-être aussi dans l'intérêt des Européens, parce que les Iraniens ont prouvé leur capacité de frapper Berlin, Paris et Londres avec leurs missiles balistiques.
Donc, beaucoup de choses. Oui.
Bon, ben, si on va acheter la paix, ben, on va peut-être pactiser avec le diable, et ce faisant, ça va peut-être nous permettre d'entretenir des relations avec un partenaire, aussi étrange que ça puisse paraître, un partenaire plus fiable que les Américains peuvent l'être.
Il y a le patron de l'Agence internationale de l'énergie en entrevue dans le Figaro ce matin qui dit que c'est la crise actuelle est plus grave que celle de 73, 79 et 2022 réunis. Lui s'attend à une catastrophe autant en termes pétroliers. Autre chose, c'est CNN qui annonçait que les Américains avaient frappé des cibles sur l'île de Karg. À suivre, je n'ai pas les détails de ça. Okay. Mais c'est ce que j'ai lu en bas d'écran. Autre chose également, je vais te faire commenter là-dessus. Il reste combien de temps, Dan? Peut-être avant de finir? Il reste-tu du temps avec Jean-François?
Absolument. Ouais. Il vous reste un 3 minutes.
Je veux parler de l'autre dynamique aussi. Là. L'après-Trump, il y a Vance qui est en Hongrie pour faire un discours pour appuyer le président qui s'en va dans les législatives, le pays qui s'en va dans les législatives.
Orban, qui n'est pas sûr de remporter les élections.
Oui, mais c'est un peu particulier, là. T'sais, je veux dire, on est en guerre, c'est majeur, mais Vance prend l'avion, mais il s'en va en Hongrie. What the heck? Comme dit Dan, parce qu'on l'a commenté durant la pause, est-ce qu'il n'est pas en train de préparer l'après, un genre de post-MAGA? Parce que MAGA aura besoin de se faire reniper, là. Le brand n'est plus très bon. Là.
Ben, ça se pourrait-tu que Vance a accepté d'aller en Hongrie parce qu'il ne veut pas être vu à Washington?
C'est tout ça. C'est rattaché à ce qu'on dit. Là.
Ouais. Et Vance a toujours dit, pendant la campagne présidentielle, il dit vraiment, lui, c'est lui qui incarne America.
C'est le dauphin. C'est MAGA.
Ouais, puis il dit, tu sais, on se concentre uniquement sur l'économie américaine, puis c'est fini les interventions à l'étranger. Parce que lui, il connaît ça au premier chef. C'est quoi des opérations à l'étranger? Il a été militaire, ça a été un Marines, il a été déployé en Irak. Ici, c'est quoi la guerre?
Les rumeurs disent qu'il n'est pas d'accord du tout avec l'opération.
Je pense qu'effectivement, les rumeurs sont vraies. Puis la semaine dernière, on rapportait un coup de fil entre lui et Netanyahou, où il a critiqué Netanyahou pour lui dire « Tu nous as vendu un conflit qui supposément allait être facile, alors qu'en réalité, on est en train de s'enliser. C'est un piège à con. » Paraît qu'il a été extrêmement ferme face à Netanyahou.
Il a crié après, tu lui as vendu une guerre facile.
Ouais. Ouais. Tandis que son opposant, celui qui est derrière Trump en ce moment, c'est Rubio. Donc, je pense qu'on peut légitimement dire que ce qu'on est en train de voir se dessiner à l'intérieur du mouvement républicain, c'est peut-être un début de dissension entre deux guerriers apaches qui rêvent de devenir le prochain Geronimo. Puis ça, c'est, écoute, à terme, si le conflit perdure, ça va peut-être laisser des marques très profondes à l'intérieur du mouvement républicain, du mouvement MAGA. Puis, tu sais, peut-être que Vance, il va finir comme Pence, hein, le premier vice-président de Trump. Si Trump, à un moment donné, il est appelé à devoir choisir entre l'un ou l'autre...
Il va prendre Rubio.
Ça se peut qu'il choisisse Rubio, ouais.
Letton Marco.
Little Marco avec ses, ben oui, avec ses souliers deux tailles trop grandes. C'est parce que les souliers ont été donnés par Trump, puis ils sont deux tailles trop grandes, littéralement, puis ils continuent à les porter pour pas avoir à
Mais qui était la risée de Trump au début, qui devient l'allié Evans, qui était le dauphin et qui décide de se faire boire ailleurs. Non, non, c'est...
Écoute, c'est la politique américaine, c'est digne d'une télésérie. La politique trumpienne, c'est digne d'une télésérie. Le House of Cards, là, écoute, ils peuvent aller se rhabiller. Là.
Non, c'est clair.
C'est rien à comparer de ce qui se passe à chaque semaine à la Maison-Blanche.
C'est clair. Merci beaucoup. On se reparle assurément. Merci, Jean-François.
Salut.
Bye.
Bonne journée. Bye.
Salut, bye.